Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Christophe Castaner avance le chiffre de 40 individus radicalisés, écartés ou suivis au sein de la police. Comment mieux les identifier ? Le ministre de l'Intérieur était auditionné hier à l'Assemblée nationale, près d'une semaine après l'attaque dans la préfecture de police de Paris. Nous reviendrons sur cette audition et sur les questions qu'elle soulève. Nous irons aussi au procès Karachi sur le volet financier de l'affaire. Hier, l'ancien directeur de la direction des constructions navales était entendu. La Turquie menace d'intervenir à la frontière avec la Syrie. Cela se fera sous peu, dit Ankara, qui vise toujours les Kurdes. Le groupe État islamique dans la région pourrait en profiter, vous le comprendrez. Et puis nous vous expliquerons pourquoi l'homme de Vitruve, célèbre dessin de Léonard de Vinci, pourrait rester en Italie et ne pas être exposé au Louvre à Paris comme prévu. Rome et Paris se déchirent encore. Christophe Castaner a donc été entendu hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, c'était jeudi dernier. Le ministre de l'Intérieur est notamment revenu hier sur le passé de l'auteur de cette attaque, Michael Harpon, et le fait qu'il se soit félicité des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Cela n'avait pas fait l'objet d'un signalement écrit et ce fut donc un dysfonctionnement sérieux, selon le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner qui a également évoqué les cas de policiers radicalisés.
Je peux vous donner ce nombre de 40 individus radicalisés au sein de la police, suivis par une cellule spécifique au sein de la DGPN. Et je peux vous dire que pour tous les cas où le risque de radicalisation a été caractérisé de façon suffisante, ces agents ont été écartés. J'utilise un mot qui n'est pas un mot administratif parce que tous les moyens ont été utilisés pour que ces agents ne restent pas dans la police. La moitié sont partis. Il reste 19 ou 20 cas qui sont suivis attentivement, sur lesquels les signaux sont des signaux faibles, qui ne caractérisent aucune anomalie pénale, mais ils font l'objet d'une attention toute particulière. Chacun est en responsabilité à tous les niveaux pour que cela puisse arriver à fonctionner.
Une société de vigilance, disait d'ailleurs un peu plus tôt le chef de l'État Emmanuel Macron lors d'un hommage rendu aux 4 victimes de l'attaque. Comment éviter un tel drame ? On s'interroge aussi dans les rangs de la police, Ariane Grissel.
En 2015, les propos de Michael Harpon sont bien rapportés à un supérieur, mais pendant une discussion informelle, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, veut donc désormais un signalement automatique. Philippe Capon, secrétaire général d'UNSA Police, juge, lui, que c'est surtout à la hiérarchie de prendre les choses en main.
Que les choses puissent se traiter calmement et qu'on puisse aussi, sur des signaux, pas demander aux fonctionnaires de la base de faire le boulot que certains ne veulent pas faire. Si les collègues signalent des choses qu'on ne nous dise pas, il faut écrire. Le signalement, il est verbal, il n'y a même pas besoin d'en parler à la personne intéressée, parce qu'on voit que c'est parfois un déclic sur le fait qu'il y ait une attaque qui se passe.
Des signalements confidentiels pour ne pas précipiter un éventuel passage à l'acte, mais aussi pour éviter les conflits dans les services. Yves Lefebvre du syndicat de policiers Unité SGPFO plaide, lui, pour la création d'un système de signalement en ligne.
Aujourd'hui, pourquoi des signalements ne sont pas faits ? Parce que l'agent qui va être amené à faire ce signalement subit la lenteur administrative. Aujourd'hui, on doit pouvoir le faire à travers une plateforme en temps réel, directement au service en charge des vérifications que sont les services du renseignement. Mais aussi, il faut former en amont les gens, que les policiers puissent avoir, je dirais, les indicateurs nécessaires à évaluer la potentialité d'une radicalisation.
Aujourd'hui, la détection des agents radicalisés est confiée à une cellule de la Direction Générale de la Police Nationale. Son travail a conduit à écarter une vingtaine de policiers de leurs fonctions depuis 2015.
Il dénonce des files d'attente invisibles devant les préfectures d'Île-de-France. Une cinquantaine de migrants vont déposer aujourd'hui des recours en référé contre l'État français. Il est devenu, selon eux, impossible d'obtenir un rendez-vous sur Internet afin de régulariser leur situation. Des rassemblements sont ainsi prévus cet après-midi devant les préfectures de Nanterre, Bobigny, Créteil et Évry. Le volet financier de l'affaire Karachi est toujours examiné au tribunal correctionnel de Paris. On y juge le financement présumé illégal de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Début des auditions hier et Dominique Castellan, ancien directeur de la DCNI, la Direction des Constructions Navales, était auditionné. Il affirme que l'ordre d'avoir recours au réseau K pour appuyer les contrats d'armement, que cet ordre venait bien du ministère. Compte rendu d'audience signé Florence Turme. pantalon beige et veste polaire marine, le crâne à peine dégarni, à 82 ans, Dominique Castellan a perdu un peu de ses facultés d'audition, mais conservé une allure sportive et un esprit vif. Entre les politiques proches d'Edouard Balladur et l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, il est aussi l'inconnu de ce dossier, poursuivi pourtant pour abus de biens sociaux au détriment de la DCNI, la société dédiée au commerce de la direction des constructions navales. Il est nommé à sa tête en 91. Les réseaux d'influence sont monnaie courante, la pratique légale. Vous voulez dire qu'à cette époque, on pouvait corrompre, glisse son avocat. C'était indispensable, sinon on ne remportait jamais aucun contrat. Et c'est le réseau Lodi qui s'impose alors dans les relations avec le Pakistan jusqu'au jour de mai 94 où Dominique Castellan est convoqué au ministère de la Défense. Rencontre Renaud Donodieu de Vabre qui lui parle de Ziad Takieddine. Conseil insistant, précise Dominique Castellan. Les demandes lui semblent élevées, 8% au départ, des négociations s'engagent. Vous n'avez pas l'air très convaincu des prestations de Takieddine et de son réseau, intervient la présidente. Je suis convoqué une nouvelle fois au ministère, reprend le prévenu, reçu cette fois par un membre du cabinet et l'on me dit « Cessez de tergiverser, vous passez commande à ce réseau à hauteur de ce qu'il a demandé. » Oui, insiste Dominique Castellan, j'ai reçu cet ordre formel.
C'était Florence Turme. Le mouvement écologiste international Extinction Rébellion poursuit ses actions dans le monde entier. Elles doivent durer 2 semaines. Hier, la police londonienne a évacué plus de 450 militants installés dans le centre de Londres, près du quartier des ministères. L'armée turque va franchir sous peu la frontière turco-syrienne. Voilà ce qu'annonçait cette nuit le directeur de la communication du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Sur le réseau social Twitter, il prévient ainsi les combattants kurdes qu'Ankara empêchera de nuire s'ils ne quittent pas la frontière. Les Kurdes luttent toujours contre le groupe État islamique sur place avec le soutien des puissances occidentales. Ils détiennent d'ailleurs des milliers de prisonniers de Daesh. Que vont-ils devenir en cas d'offensive turque? Hugo Lanoé a posé la question à Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Voici sa réponse.
Non seulement l'État islamique, quoi qu'en pense et quoi qu'en dise M. Trump, n'a pas été éradiqué. Certes, l'État islamique, et ma foi tant mieux, a subi des défaites militaires très importantes, mais nous savons aussi qu'une partie de ses militants, de ses cadres, de ses combattants sont rentrés dans la clandestinité. Or, la politique ayant horreur du vide, s'il y a une zone d'instabilité nouvelle qui se crée au nord-est de la Syrie à cause de l'intervention militaire de la Turquie, eh bien, immanquablement, les djihadistes vont profiter de cette situation de déstabilisation accrue pour tenter de relancer des opérations. Nous savons qu'une partie des djihadistes prisonniers, mais ils sont quand même au nombre d'environ 10 000. Donc là aussi, le danger sera accru. Donc tout cela est évidemment infiniment inquiétant, non seulement pour la stabilité des pays au premier chef concerné, la Syrie et l'Irak, mais plus largement pour des pays comme ceux de l'Union européenne, de la France, qui ont déjà été victimes d'attentats et qui pourraient l'être à nouveau si l'État islamique, sous cette forme ou sous d'autres formes, replanifie un certain nombre d'opérations terroristes.
C'était le directeur adjoint de l'IRIS, Didier Billion. La Maison-Blanche indique qu'elle ne va pas coopérer pour l'enquête sur une possible destitution de Donald Trump. Une enquête illégitime, selon la présidence américaine. Un peu plus tôt hier, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne avait été empêché de témoigner. Un lanceur d'alerte accuse, rappelons-le, Donald Trump d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour qu'il ouvre une enquête sur le démocrate Joe Biden. Notez aussi en bref qu'Angela Merkel juge un accord sur le Brexit improbable. La chancelière allemande l'a dit hier au chef de gouvernement britannique Boris Johnson. Les négociations se poursuivent avec l'Union européenne d'ici le 31 octobre prochain, jour d'un Brexit programmé. L'homme de Vitruve sera-t-il visible dans quelques jours au Louvre à Paris lors de la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci. Cette exposition débute le 24 octobre, mais le célèbre dessin est toujours en Italie, sur décision de justice. Bruce de Gelsin nous explique pourquoi.
L'homme de Vitruve était le symbole de l'unité retrouvée entre Italiens et Français. L'accord de paix signé il y a seulement 2 semaines mettait fin à une querelle que l'on voulait croire lointaine. Mais finalement, c'est une association, Italia Nostra, qui a obtenu que ce soit la justice et non les États qui décident du sort des œuvres de Vinci. Cette association de défense des biens culturels s'élevait depuis plusieurs mois contre le prêt des œuvres du maître de la Renaissance pour des motifs scientifiques et de sauvegarde du patrimoine. mais avec des relents nationalistes, la présidente de l'association dénonçant un accord entre les deux États qui plaçait l'Italie en position de subalterne par rapport à la France. Et c'est tout l'accord qui est remis en cause. Les 5 œuvres que devait prêter Rome à Paris resteront sur le territoire national en attendant la décision du juge une semaine seulement avant le début de l'exposition. Mais s'il décide de bloquer les œuvres en Italie, les peintures et dessins de Raphaël que le Louvre devait prêter l'an prochain en échange des œuvres de Vinci devront-elles rester à Paris?
Le temps ce mercredi sur la France métropolitaine, il sera agité avec des pluies sur tout le territoire sauf près de la Méditerranée. Ce matin comptez 12 degrés à Lille, 13 degrés à Paris, 15 à Strasbourg, 21 à Marseille.